France Culture.
Les nuits de France Culture.
L'alchimie ne se résume pas aux opérations effectuées avec les athanors, les bains-marie et autres alambics. Elle n'est pas qu'une façon de tenter de transformer la matière, ni la recherche perpétuelle de la pierre philosophale ou de l'eau divine. Elle comporte aussi toute une dimension théorique, philosophique et cosmogonique. C'est une vision bien particulière du monde et de l'univers que portent la plupart des travaux alchimiques. Entre le microcosme et le macrocosme, entre la matière et l'esprit, l'alchimie se propose d'explorer et de redécouvrir l'ordre harmonique de l'univers, où tout est correspondance et analogie. Les saisons, les étoiles, les matières et les hommes, tous ces éléments sont connectés de façon constante et inébranlable les uns avec les autres, formant un immense réseau naturel et mystique. C'est une forme de philosophie de la nature. Il ne s'agit pas, comme on pourrait le penser, de maîtriser les éléments, de faire violence à l'ordre naturel, mais justement de le comprendre et de s'y intégrer. L'alchimiste se sait minuscule, en face des vérités qu'il tente de découvrir, par le biais de procédés qui sont plus spirituels et immanents qu'ils ne sont scientifiques. C'est en cela que l'alchimie se place en opposition à la science moderne. C'est une pensée enchantée, habitée par les songes et la poésie, qui ouvre ses bras au symbolique, au cryptique, à l'hermétique et aux expériences qui dépassent la raison. C'est donc la philosophie de l'alchimie qu'explore cette émission de Michel Cazenave, réalisée par Anne-Marie Abou, intitulée « La source intermittente », avec l'historien Antoine Fèvre et le psychologue Étienne Perrault. Première diffusion le 13 mai 1978 sur France Culture.
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfes d'ombre. E. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I. Pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U. Cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
La source intermittente. Antoine Fèvre, maître de conférence à l'École pratique des hautes études. Étienne Perrault, spécialiste de l'alchimie, traducteur du Rosaire des philosophes. Michel Cazenave.
Nous sommes aujourd'hui dans une après-midi consacrée à Vishnegravski. La vie de Vishnegravski pose un problème qui nous semble intéressant, puisque voilà un compositeur qui, au début de sa carrière, au début du siècle, a connu une certaine notoriété, puis qui disparaît complètement pendant plusieurs dizaines d'années et qui, tout à coup, revient d'une certaine manière sur le devant de la scène. D'une manière beaucoup plus générale, il nous a paru intéressant de nous interroger, de nous questionner sur ce problème et de savoir comment cette certaine manière de penser pouvait ainsi, en quelque sorte, occuper les champs de conscience, puis s'occulter, puis, éventuellement, revenir au jour et retrouver leur place naturelle. Nous avons pensé à deux exemples précis, l'un étant celui de ce qu'on a appelé les philosophies de la nature, l'autre celui de l'alchimie, et peut-être d'ailleurs ces deux sujets ne sont-ils pas tellement éloignés l'un de l'autre. Alors la première question que l'on aimerait poser, et si vous voulez bien je vous la poserai à vous Antoine Febvre, c'est de savoir ce qui, à vos yeux, peut expliquer cette sorte de mouvement de sinusoïde, si l'on peut dire, qui affecte les philosophies de la nature, et qui peut donc expliquer qu'elles soient l'objet de réflexions et d'études si sérieuses à certains moments, et puis que tout à coup, on les voit, je dirais, presque disparaître complètement.
Actuellement, nous assistons en effet à un phénomène très particulier et fort intéressant, puisque la science elle-même, la science officielle, qui était naguère encore la suprême référence d'un monde extrêmement laïcisé, cette science se trouve maintenant en butte aux interrogations des grands savants eux-mêmes sur les finalités et sur les limites de la science même. Et alors, parallèlement, les sciences modernes, dans leur démarche fondamentalement matérialiste, relativiste, redécouvrent curieusement, et alors qu'elles ne s'y attendaient pas, redécouvrent depuis peu de décennies, et surtout actuellement, redécouvrent à la pointe ultime de leur recherche l'unité du vivant. Elles redécouvrent l'ordre organique et harmonique de l'univers, et elles mesurent maintenant combien peut être une appréhension purement qualitative du réel pouvait être partielle, pouvait être fausse. Et en tout cas, il ne m'apparaît pas douteux que les fondements sur lesquels se sont constitués le savoir et le système de représentation du monde contemporain, c'est-à-dire, comme dirait Michel Foucault, l'épistémé classique, eh bien, c'est en train de se fissurer. Et c'est pourquoi nous revenons de plus en plus à ce qu'on peut appeler, et ce qu'on appelle traditionnellement, une philosophie de la nature. Raymond Ruyère, l'auteur de « La gnose de Princeton » et d'autres ouvrages fort intéressants, a fait remarquer très justement à plusieurs reprises que les modèles dont se servent de nos jours les physiciens, dont se servent les chimistes, sont en train de perdre leur inertie structurale qui les faisait ressembler à des constructions de mécanos. Et en effet, il se trouve de plus en plus que la science officielle elle-même est comme confronté à ce problème de la nature naturande qui se cache derrière la nature naturée. Ce qu'on appelle la nature naturée, on pourrait dire que c'est l'ordre constitué, n'est-ce pas ? C'est le monde des phénomènes tel que ce monde nous apparaît, tel que ce monde est manipulable par nos moyens de mesure, par nos moyens d'observation, par notre technique scientifique, n'est-ce pas ? En revanche, la nature naturante, c'est la nature qui est déjà là, c'est la nature qui est en dehors de nous. Avant toute étude possible, avant qu'on songe à expliquer, avant qu'on songe à décrire l'existence et les choses, puisqu'avant qu'on songe à décrire l'existence et les choses, il faut bien qu'elles existent, n'est-ce pas ? Il faut qu'elles soient instituées. Or, précisément, les causes qui instituent ne sont pas les causes qui expliquent. Si vous voulez, au fond, c'est la différence entre science et philosophie, n'est-ce pas ? La nature naturante, c'est l'ordre constituant. C'est ce qui fait que le monde nous apparaît tel que nous le percevons. Mais derrière ces apparences, il y a la nature naturante qui permet aux choses d'exister.
Toute science, toute connaissance est le fait d'un sujet. La connaissance est donc d'abord un point de vue, une expérience intérieure. Tel est le sujet et telle sera la connaissance. Et c'est dans cette perspective d'ailleurs que se place, je pense, l'évolution actuelle de la science. À la science rationaliste objective se substitue un savoir qui tient compte du fait que l'objet est toujours l'objet d'un sujet et que la vision est dépendante de la qualité de l'œil et de la faculté de perception de l'individu. C'est évident, vous voyez. Et c'est à ce niveau que se place l'importance de l'alchimie, car qu'est-ce que l'alchimie ? C'est une transformation dont le thème et dont la portée est mystérieuse. Elle est aussi mystérieuse aujourd'hui qu'elle l'était au début de l'alchimie occidentale ou de l'alchimie orientale, car il n'est que de se plonger dans les livres d'histoire de l'alchimie pour voir que les historiens demeurent perplexes toujours devant la qualité, la signification des textes qu'ils ont sous les yeux. Et là, on se rend compte aussi que ces textes leur apparaissent suivant la manière dont ils les voient. Il y a enfin une remarque que je puis faire ici et qui m'a toujours amusé quand je lis des textes d'histoire de l'alchimie, c'est que bon, il y a une perspective qui veut que l'alchimie soit une préfiguration de la chimie actuelle, mais aussi que d'abord ce soit partie d'opérations de métallurgie égyptienne ou babylonienne pour aboutir à une mystique. Mais vous avez des historiens qui sont perplexes devant le fait que les premiers alchimistes dont nous ayons des textes, gens comme Olympiodore, comme Marius, ceux dont les textes ont été pieusement colligés par Berthelot, eh bien, ils parlent en termes mystiques, et c'est-à-dire en termes intérieurs. On ne sait pas très bien si c'est l'intérieur, si c'est l'extérieur. Et là, on se rend compte que la transmutation portera sur la matière telle que la voit le sujet. Et cette vision du sujet sera dépendante de son niveau intérieur, de son niveau intellectuel, de son niveau spirituel, de son inspiration spirituelle. Vous voyez ?
Mais ce qui me frappe en vous écoutant, et en vous écoutant tous les deux d'ailleurs, c'est de voir comme vous faites appel à la science moderne et à certaines notions de la science moderne. Je pense par exemple à certaines recherches de la mécanique quantique qui en arrivent à affirmer, du point de vue le plus scientifique possible, que un certain degré infinitésimal, le fait même que l'observateur regarde ce qui se passe change le résultat de l'observation. Et où donc, effectivement, il y a une sorte d'intrusion, si on peut dire, du sujet dans l'objet étudié. Et l'objet, à la limite, ne peut pas être étudié en tant que tel ou en soi. Et où, effectivement, on retrouverait peut-être là quand même une des grandes intuitions d'une pensée qui a été très, très occultée. Mais à travers ça, justement, et implicitement, donc, vous remettez en cause toute une certaine tradition, disons, mécaniste, positiviste, de notre pensée et de notre science, d'ailleurs les deux allant ensemble, tradition qui, en gros, aurait commencé vers le milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment de la fin de la période baroque et lorsqu'on passe à l'ordre classique. Mais alors, la question tout de même est passionnante, elle mérite d'être posée, elle mérite qu'on essaie d'y répondre, c'est comment se fait-il que cette sorte de rationalité, mais je dirais presque de rationalité amputée, dans la mesure même où c'est une rationalité pure, comment cette rationalité amputée a-t-elle pu triompher, disons, d'une conception et d'une philosophie qui était certainement beaucoup plus globale ?
Je crois, pour aller dans le sens de ce que disait M. Perrault tout à l'heure, que le grand problème philosophique, finalement, c'est celui des rapports entre la nature et l'esprit. Or, ça commence dès avant la période baroque ou pré-baroque à laquelle vous faisiez allusion. Il y a eu, à partir du thomisme, à partir plutôt d'un néo-thomisme de type aristotélicien, n'est-ce pas, une sorte de sentiment assez généralisé dans, chez les penseurs de notre Occident latin, à partir du moment où cet aristotélisme formel ayant imprégné toutes les formes de pensée, l'individu s'est senti écartelé, n'est-ce pas, entre un idéalisme qui s'épuisait à saisir des essences divines pures et abstraites, et puis d'autre part un univers concret qui était de plus en plus coupé de l'esprit, voire même considéré comme mauvais. Et avec l'emprise de plus en plus grande de la pensée néo-aristotélicienne, et notamment averroïste, n'est-ce pas, ça se situe essentiellement au fin XIIIe et XIVe siècle, eh bien, on assiste à un processus qui explique, n'est-ce pas, je crois, beaucoup de choses, et qui, notamment, cela répond, je crois, à votre question, n'est-ce pas, c'est que la connaissance, au sens général du terme, la connaissance du monde, la connaissance de l'homme, la connaissance des choses, et la logique formelle, ce sont deux notions qui tendent à devenir absolument synonymes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette logique formelle? Eh bien, c'est une logique aristotélicienne, finalement, la logique d'identité d'Aristote, qui finit par fonctionner comme un véritable processus d'exclusion. Autrement dit, on a pris de plus en plus, et dès la fin du XIIIe siècle, l'habitude d'utiliser les résultats de la mathématique et de la physique en vue de conclusions métaphysiques.
Conjoins donc ton fils Gabricus, de toi le plus aimé parmi tous tes fils, avec sa sœur Béa, qui est une jeune fille brillante, douce et délicate. Gabricus est mâle et Béa femelle, qui lui donne tout ce qui vient d'elle. Ô nature bénite, et bénite est ton opération parce que de l'imparfait tu fais le parfait. Pour cette raison, ne prends cette nature si ce n'est qu'elle soit pure, parfumée, non mûre, charmante, terrestre et naturelle. Mais si tu faisais autrement, rien ne se produirait. Veille que rien de contraire n'entre avec notre pierre, sinon que tu mettes lui seul. Conjoins donc notre serviteur à sa sœur odoriférante et qu'ensemble ils enfantent le fils qui ne sera pas assimilé à ses parents. Et quoique Gabricus soit porteur de Béa, cependant la génération ne se fait pas sans Gabricus. Assurément le mariage de Gabricus avec Béa aussitôt a cessé, car Béa monte sur Gabricus et l'enferme dans son ventre parce que rien absolument ne peut être vu de lui. Et elle a embrassé Gabricus de tant d'amour que tout entier, elle l'a saisi dans sa propre nature et divisé en parties indivisibles.
On a l'impression qu'il s'est effectivement instauré à une certaine époque de l'histoire de l'Occident une sorte de dichotomie entre l'esprit et la matière, l'esprit devenant de plus en plus idéaliste mais tombant dans une impasse, la matière devenant de plus en plus matérialiste, si l'on peut dire, enfin, relevant d'une philosophie de plus en plus matérialiste, mais d'une philosophie de plus en plus matérialiste dont le paradoxe est finalement qu'actuellement on ne puisse même plus rendre compte de la matière et que pour en rendre compte, donc, il faut revenir à l'unité de pensée et à l'unité de perception.
Cette insuffisance a éclaté d'une façon, je dirais, apocalyptique lorsque l'éclair d'Alamo Gordo a transformé la matière en énergie. Bon, je crois qu'on peut dire que la science de la matière a anéanti le matérialisme ce jour-là. Voyez-vous, la matière est devenue énergie. Bon, je crois qu'il y a... Bon, on peut méditer là-dessus, c'est un constat. Et l'esprit le plus rationaliste n'ira pas contre. Alors, on pourrait faire, à ce moment-là, d'ailleurs, la psychologie des savants atomistes qui a été retracée dans ce livre classique de Robert Jung, Plus clair que mille soleils, où on voit Oppenheimer fasciné par les arrière-plans de la matière en enfer du Sanskrit, lisant l'Inferno de Dante, ou un Fermi disant Dieu avait aveuglé l'esprit des savants atomistes jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'extrémité de leur recherche, etc. Il y a eu une fascination par l'arrière-plan. L'arrière-plan, disons, énergétique de la matière, et que d'autres, dans le même temps, un Jung, allait chercher, mais à l'intérieur de l'homme et non pas à l'extérieur, pour rencontrer, d'ailleurs, à un moment de sa recherche, synchronistiquement vers 1940 ou 50, un atomiste, Wolfgang Pauli, professeur avec lui à Zurich, où ils ont confronté leur vision, puis se sont dit, vous et moi, nous faisons la même chose, vous à l'extérieur et nous à l'intérieur.
C'est une des choses qui m'ont beaucoup frappé chez Jung. Ce sont ces affirmations plusieurs fois répétées Affirmation selon laquelle, finalement, d'après lui, d'après ses recherches personnelles dans son domaine propre et aussi ses recherches sur le plan scientifique, dans un des domaines dont vous citiez Paoli qui débordait le sien, il n'y a pas d'opposition matière et esprit, mais finalement matière et esprit sont une seule et même chose, à laquelle d'ailleurs il a donné un certain nombre de noms. Et cela, alors, Jung, pour moi, voyez-vous, s'inscrit tout à fait historiquement, n'est-ce pas, indépendamment de tout jugement personnel sur Jung, Jung s'inscrit absolument dans la lignée des natures philosophes de l'époque romantique. Et alors, ce qui me frappe là, n'est-ce pas, c'est précisément que cette nouvelle nature philosophique, si je puis l'appeler ainsi, aujourd'hui, rejoint l'ancienne, la précédente, disons la nature philosophie allemande du début du 19e, de la fin du 18e siècle, par un postulat, ou une hypothèse si vous préférez, ou même une conclusion. Certains grands savants actuellement croient même pouvoir affirmer qu'il s'agit de conclusions, selon lesquelles on ne peut plus opposer esprit à matière, on ne peut plus opposer subjectif à objectif, sujet à objet, on ne peut plus opposer la conscience à la chose, à partir du moment où on essaye de voir ce qui se passe derrière la nature naturée pour essayer de saisir, en quelque sorte sur le vif, bien que ça n'apparaisse pas comme tel à notre perception, les processus même internes, n'est-ce pas, structurants de la nature naturante. Et c'est précisément dans la gnose de Princeton, on pourrait citer d'autres exemples à l'heure actuellement, mais Raymond Ruyère nous explique, ce que d'ailleurs nous savons par un certain nombre de publications en provenance des États-Unis, de publications scientifiques et épistémologiques, que les physiciens dont parle Ruyère, englobant, n'est-ce pas, la gnose de Princeton, ces physiciens refusent d'opposer l'esprit à la matière, le subjectif à l'objectif, et nous avons affaire à une épistémologie, nous avons affaire à une réflexion philosophique sur les sciences dans cette gnose de Princeton qui se présente, nous dit Ruyère, comme essentiellement anti-matérialiste, parce que pour ces savants-là, eh bien, une réalité physique, une réalité de type matériel ne peut pas précéder la conscience. Et antimatérialiste, cette gnose, cette néognose, n'est-ce pas, est, nous dit-il, résolument déiste. On pourrait citer bien d'autres scientifiques à l'heure actuelle. Est-il licite de considérer Teilhard de Chardin comme un homme de science? Sans doute, je ne veux pas discuter cela. Maintenant, je voudrais simplement dire à son propos que il renoue lui aussi, n'est-ce pas, avec le nous d'Anaxagore, quand il nous explique tout au long du phénomène humain qu'à chaque grain de matière est associé en quelque sorte une parcelle d'esprit. Et nous pourrions citer aussi les travaux d'un certain nombre de biologistes, de scientifiques, qui, au fond, renouent avec l'idée de Thalès, selon laquelle toutes les choses sont pleines de Dieu. Et au fond, des gens comme Friedhof Capra, dont le merveilleux livre « Tao of the Physics », qui n'est malheureusement pas traduit en français, cet ouvrage est tout plein d'aperçus de cette nature qui tentent à nous montrer, Capra lui-même est un microphysicien de grande classe, que une sorte de psyché, en quelque sorte, animerait la substance matérielle. Eh bien, voyez-vous, là, c'est précisément le grand dénominateur commun. C'est là que je voulais en venir, entre la nature philosophie de l'Allemagne romantique et les tendances néognostiques, appelons-les comme cela, entre guillemets, dont il est question en ce moment, puisque déjà, à cette époque, dans ce romantisme allemand, on affirmait, je pense à Schelling et à Baader, pour ne nommer que quelques noms parmi les plus connus, eh bien, pour ces natures philosophes, pour ces philosophes de la nature, il n'y a pas de dualisme, n'est-ce pas, mais il y a progression discrète d'un plan à l'autre. Schelling nous disait, la matière est de l'esprit en sommeil. Tout esprit aspire à s'incarner, et toute matière aspire à se spiritualiser. C'est un des fondements même de la pensée alchimique.
Exactement. Il s'agit de fixer le volatile et de volatiliser le subtil. En vous écoutant, vous voyez, en vous entendant énumérer ces noms de gens qui ont marqué pour quiconque cherche à éclairer son esprit et à connaître, j'étais frappé par le fait qu'il y aurait une critique de la connaissance à faire pour chacun de ces personnages. Et l'exemple qui me frappe le plus, c'est celui de Teilhard. J'ai lu Teilhard très jeune, lorsqu'il ses œuvres circulaient en, sous le manteau, en renéotypé. Je voyais que chez Teilhard, il y avait un effort désespéré pour christianiser la matière, pour ramener ce Saint-Esprit au sein de la matière et pour faire de l'alchimie. Et l'alchimie, c'est ça. Cesser ce divorce qui existe depuis les cartésiens, ou même peut-être, oui, entre l'esprit et la matière, eh bien, cette fin du divorce, elle s'est réalisée de la façon la plus inattendue, la plus anti-humaine, la plus inhumaine, la plus infernale, pour reprendre l'expression d'Oppenheimer lui-même, quand ils ont fait exploser la chose. Je suis actuellement dans un contexte de constant contact avec les phénomènes intérieurs des êtres. Eh bien, je les vois, ces développements, se placer au niveau de sujets indépendamment de toute histoire, indépendamment de toute influence intellectuelle, je dirais, voyez-vous. Et je vois des êtres qui viennent absolument prisonniers, coincés, n'est-ce pas, en termes courants, par un divorce total entre l'esprit et le corps, divorce qui est d'autant plus grand d'ordinaire que ces êtres ont une vie intellectuelle, une vie spiritualiste intense, et ils ont besoin de retrouver leur corps. Alors, bon, d'où la vogue de ces sciences de jonction entre les deux pôles, dont la plus caractéristique est le yoga, dont le nom signifie jonction. Et nous, nous avons à trouver, à retrouver un yoga occidental, une façon d'opérer cette jonction entre l'esprit et la matière, entre, je dirais, la nature naturée, c'est-à-dire, comme je la vois, bon, les phénomènes extérieurs, et la nature naturante, c'est-à-dire les lois qui gouvernent ces phénomènes, le dynamisme de la nature. Et pour découvrir le dynamisme de la nature à l'extérieur de moi, il faut évidemment que je l'ai redécouvert en moi, pour réaliser cette connaissance qu'est la connaissance.
Il est une chose parfaite, sans réserve. Avant que le ciel et la terre ne fussent, la voilà déjà silencieuse et seule, ô combien. Elle se tient seule, immuable. Elle se meut en cercle sans se mettre en péril. Nommons-la, si vous voulez, la mère du monde. Je ne sais pas son nom. Je l'appelle Tao. Ayant bien de la peine à lui donner un nom, je la dénomme Grande. Autour d'un moyeu. Dans le vide médian réside l'œuvre du char. On creuse l'argile et elle prend la forme de vase. C'est par le vide qu'ils sont des vases. On perce des portes et des fenêtres pour créer une chambre. C'est par ces vides que c'est une chambre. Par conséquent, ce qui est sert à la possession. Ce qui n'est pas sert à œuvrer.
Ce qui me semble un petit peu paradoxal, c'est qu'un certain type de réflexion ou un certain genre d'intuition, disons, sont ramenés par les disciplines qui, en principe, devaient les faire disparaître à jamais. Je veux dire par là que la science, pendant toute une période, a prétendu qu'elle mettrait définitivement fin à ce qu'elle se permettait d'appeler l'obscurantisme, ou que, puisque je sais que vous êtes très proche d'un certain type de psychanalyse, Étienne Perrot, la psychanalyse elle-même, justement, devait mettre fin à cela. On connaît, après tout, la fameuse phrase de Freud sur l'occultisme. Or, on s'aperçoit que, finalement, dans une sorte de mouvement d'involution, si on peut dire, de ses propres sciences, ce sont elles qui nous ramènent à un certain type de pensée. Mais alors, il faudrait peut-être d'autant plus se poser la question de savoir ce qui a eu lieu historiquement. Car, si vous voulez, au fond, cette disparition de la philosophie de la nature, ou cette disparition d'une conception, d'une unité de l'âme, de la matière et de l'esprit, nous l'avons à peu près datée historiquement. Nous n'avons peut-être pas vu comment et pourquoi elle a pu se produire. Et ce que je me demande, et c'est sur quoi j'aimerais bien avoir votre avis, c'est de savoir si au fond ça n'aurait pas quelque chose à voir avec, disons, l'épopée ou l'odyssée de ce que Henri Corbin appelle l'imaginal. C'est-à-dire cette faculté qui permet, en quelque sorte, de transcender les oppositions entre le conscient et l'inconscient, ou entre la matière et l'esprit. Et donc, est-ce que finalement notre civilisation n'aurait pas subi, disons, pendant plusieurs siècles, quand même une sorte de ce qu'il faudrait appeler une grande dépression de l'imaginal ?
Si la voie est ouverte aujourd'hui à une nouvelle philosophie de la nature, c'est précisément parce qu'on s'aperçoit finalement de cela, n'est-ce pas ? On s'aperçoit que le besoin ne s'est encore jamais fait sentir à un tel point de redécouvrir ce que les mystiques chiites que nous a fait découvrir Henri Corbin ont voulu dire, ce que les alchimistes ont voulu dire, nous faire redécouvrir un monde, un univers réel qui n'est pas imaginaire, mais qui est imaginal, c'est-à-dire qui se situe à la frontière de ce qu'on a appelé le monde de la matière et de ce qu'on a appelé le monde de l'esprit, mais monde qui n'en est pas moins vrai, monde archétypal, comme dit Jung, monde des intermédiaires, univers qui est celui de la théosophie elle-même, avec ses hiérarchies angéliques et autres. Et pourquoi, demandiez-vous, est-ce que ces traditions ont été occultées ? Je crois pouvoir dire que c'est en raison, ou plutôt à cause de la collusion des sciences humaines et de la science traditionnelle de type aristotélicien au sens étroit du terme, au profit de cette dernière. Parce qu'enfin, depuis longtemps, on parle de sciences humaines, au pluriel, mais on les cultive au singulier. Et on les cultive au singulier avec une méthodologie qui est encore celle des vieilles sciences de la matière. Et précisément, je pense que les sciences humaines sont en train de débaucher leur reconversion au nouvel esprit scientifique. Elles essayent de sortir actuellement de la physique du néo-cartésianisme. Elles essayent de sortir de la chimie de Lavoisier, de l'astronomie de Newton, ou si vous voulez aussi sur le plan de l'histoire, du vieil historicisme de Condorcet. Parce qu'elles s'aperçoivent de plus en plus que, depuis très longtemps, elles ont perdu finalement à se faire réductrices à la manière du XIXe siècle. Elles s'aperçoivent qu'elles sont démodées d'au moins deux siècles par rapport à une méthodologie comme celle de Pauli, que vous citiez tout à l'heure, de Planck, de Oppenheimer, de Heisenberg. Et aujourd'hui, nous assistons à une sorte de reconversion, timide, mais non moins réelle, dans la mesure où notre pédagogie occidentale pose moins la coupure ontologique, pour reprendre ce que disait Étienne Perrot tout à l'heure, entre un moi subjectif et un cosmos objectif. Alors on essaye de retrouver dans le moi une unité, mais une unité qui ne soit pas une unité simpliste. Parce que pour l'homme traditionnel et pour le philosophe de la nature, au sens précis où je le définissais tout à l'heure, précisément, et ça, Jung l'a bien retrouvé, et les alchimistes l'avaient dit avant lui à leur manière, mais Jung a su les lire, eh bien, le moi ne se réduit pas au cogito cartésien. On s'aperçoit de plus en plus que l'ego est feuilleté, qu'il est multiple, et que, finalement, il ne peut retrouver son unité que dans une perspective anthropocosmique.
Oui, voyez, le cogito de Descartes est le fait d'un certain type d'être, d'individu, d'un type pensé. On pourrait dire aussi bien, je souffre, donc je suis. Enfin, en fait, il faut dire, je suis conscient, donc je suis. Et être conscient, c'est pas penser, justement. Vous voyez, la conscience, c'est l'éclair, c'est l'illumination. Et l'illumination de cette connaissance totale, que Jung a appelée savoir absolu, dans un certain contexte. Et cette connaissance totale, vous voyez, pendant que vous parliez, il y a une phrase de l'Upanishad qui me chanter dans l'esprit, peux-tu me donner la connaissance de cette chose dont la connaissance rend toute chose connue ? Au fond, c'est de ça qu'il s'agit, vous voyez. Et Descartes, alors ça, c'est un phénomène intéressant, il y aurait une belle psychologie de Descartes à écrire. Ça. Descartes avait un arrière-plan mystique, n'est-ce pas ? Et il est paru récemment en traduction française un livre de l'historienne de cette époque, Frances Yates, qui s'intitule « La lumière des Rose-Croix », où elle montre la fascination qu'exerçait surtout l'intelligence de cette époque, cette manifestation alchimique, c'est-à-dire illuministe, ésotérique, qui a été l'explosion des manifestes Rose-Croix et tous les phénomènes plus ou moins confus et mêlés et troubles qui s'y sont mêlés. Et Descartes était fasciné par ça, et il a eu peur, finalement, d'être pris, montre Francis Yates, et à l'intérieur et à l'extérieur, parce que ça n'était pas dans une église comme celle du XVIIe siècle en France, ça n'était pas sans risque, il a eu peur d'être pris par cet illuminisme. Et, en fait, il a fait un effort, un de ces efforts d'intégration dont nous parlions tout à l'heure à propos de Thomas d'Aquin et lui, pour rationaliser, c'est-à-dire pour penser, pour rendre conscient à sa manière ce mouvement dans lequel il risquait de s'absorber, vous voyez. Et il ne faut pas oublier que toute la philosophie cartésienne est partie de ces illuminations, de ces rêves de la nuit de la Saint-Martin 1717, je crois, ou 1719, et de la vision de la science admirable qui l'a accompagnée, vous voyez. Alors, il y a là un mouvement qui avait sa valeur à cette époque et qui nous a mené finalement par l'écartèlement entre l'esprit et la matière qui est allé en s'accentuant, à cette énantiodromie d'Héraclite, à ce retour, cette mutation d'un opposé dans l'autre, à ce changement de point de vue, qui fait que, bon, actuellement, nous sommes dans un état d'explosion. Et ça, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui crée l'angoisse moderne, la psychanalyse avec ses remous, ses insuffisances, ses tâtonnements, sa mise en cause, et puis ce qui en prend le relais et qui l'a fait déboucher et qui l'accomplit, et qui est la démarche jungienne, démarche qu'il appelait individuation, qui est une réalisation d'une conscience totale et dont il a trouvé à sa grande stupeur le modèle et les constats d'expérience dans les alchimistes depuis le 3e siècle après Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Et il aurait aussi bien pu trouver, d'ailleurs je crois qu'il les avait lus, des récits analogues chez les alchimistes chinois du 1er siècle qui se référaient tous au livre des transformations qui est le livre des rythmes naturels recomposés et codifiés par la Chine dans les 64 hexagrammes de ce livre des transformations Yi Qing.
D'ailleurs, Friedhof Capra, dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure, Tao of the Physics, parle précisément de ce livre des transformations et voit dans la structure même de ces jeux taoïstes comme la préfiguration de ce qu'il appelle the cosmic dance, la danse cosmique au niveau microphysique. Et en effet, ce qui me frappe, c'est que dans ces traditions auxquelles vous faites allusion, Étienne Pienne-Perrot, et notamment la tradition panzophique, puisque c'est comme ça que s'appelle essentiellement cette philosophie de la nature dans l'Allemagne baroque au XVIIe siècle, on s'aperçoit que la plupart des penseurs de cette panzophie, ce sont également presque tous des arithmosophes, n'est-ce pas, des gens préoccupés d'arithmologie qui recherchent, comme le faisait d'une autre manière, avec d'autres procédés, l'alchimie, mais comme on en retrouve la trace, n'est-ce pas, chez les gnostiques de Princeton et chez quelqu'un comme Capra, qui recherche les structures fondamentales des nombres dans les cristaux, dans les constellations, dans la circulation du sang, dans les périodes de la vie humaine.
On le cherche du regard et on ne le voit pas. Son nom est germe. On tend l'oreille et on ne l'entend pas. Son nom est subtil. On cherche à le saisir et on ne le sent pas. Son nom est ténu. Forme sans forme, image sans objet. C'est lui l'obscur chaos. Allant à sa rencontre, on ne voit pas son visage. Le suivant, on ne voit pas son dos.
Ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que vous parlez de cette notion d'intérieur. Vous avez remis beaucoup en honneur la notion aussi de sujet, et vous parlez de conscience, non pas d'ailleurs la simple conscience résonante, disons, mais une conscience majuscule, si l'on peut dire, mais où donc le sujet, même à niveau cosmique, réintervient. Or, par là même, vous vous trouvez soit en contradiction, soit en dépassement, je ne peux pas trancher, mais vous vous trouvez très à l'extérieur de l'ensemble, disons, de la philosophie actuelle telle qu'elle règne, en gros, au plan universitaire, donc telle qu'elle est officiellement admise, vous vous trouvez tout à fait à l'extérieur aussi de cette sorte de domination des sciences sociales sur notre pensée actuelle, sur notre société, et en particulier dans les sciences sociales de l'histoire même, puisque maintenant nous vivons même pas dans une philosophie de l'histoire, mais dans une histoire en quelque sorte qui a envahi toute la philosophie. Alors, est-ce que vous avez l'impression à travers cela que, renouant avec ces anciennes traditions dont vous parlez, vous vous trouvez finalement en avance sur votre temps, et que c'est simplement une sorte de phénomène d'hystérésis qui joue au plan social, qui fait que l'ensemble de la société finira par se rédimer en abandonnant et ses sens sociaux et ce rejet de la conscience, etc. Ou est-ce que vous êtes simplement pris, ou vous croyez être pris, dans une sorte de mouvement cyclique qui fait qu'un certain type de pensée apparaîtrait, disparaîtrait, réapparaîtrait, et ainsi à l'infini?
Moi, je ne crois pas beaucoup au mouvement cyclique. Tout au moins, je pense que si cycle il y a, il ne se reproduit qu'un petit nombre de fois et qu'ensuite il se produit des cycles, si vous voulez, tout à fait différents, mais ce ne sont peut-être pas nécessairement des cycles. L'envahissement des sciences humaines par une certaine philosophie de l'histoire, puisqu'aussi bien c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas, par exemple de type néo-hégélien, c'est intimement lié, je pense, à l'apparition des idées occidentales relatives à la notion de progrès. Or, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Si nous avons survolé l'histoire très rapidement tout à l'heure, mais eu égard à notre pensée occidentale, considérée globalement, c'est un phénomène qui date du XVIIIe siècle, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de philosophie de l'histoire pratiquement avant Herdor ou avant Vico. Je pense que l'histoire, avec un grand H, doit être démystifiée, au profit peut-être alors d'une remitisation, mais d'une remitisation qui porterait sur d'autres choses que celles qu'ont véhiculées les philosophies de l'histoire depuis Hegel.
On reviendrait toujours à une critique de la connaissance, à une critique de la grille. Et on pourrait dire avec Jung que c'est un archétype qui se projette. Et l'archétype du progrès serait la vision intérieure d'une évolution vers un mieux, vers un accomplissement, qu'il est légitime de rechercher dans le sujet, comme l'ont fait toutes les civilisations traditionnelles, et à partir de là, on peut effectivement projeter, comme l'a fait la toute première, enfin en Occident, la religion chrétienne, avec l'instauration à la fin de la Jérusalem céleste. Mais alors là, on en revient aux alchimistes et à l'importance de la vision alchimique. Les alchimistes ont toujours considéré que la Jérusalem céleste, effectivement, elle peut être instaurée, l'âge d'or reviendra, et c'est ça le terme du grand œuvre. Mais le grand œuvre s'opère en moi, c'est en moi que je dois le rechercher. Et effectivement, il sera plus facile, peut-être, d'oublier mes propres problèmes, et ça se voit souvent chez des ésotéristes et chez des alchimistes, poursuivre le progrès, soit chez les autres, soit, ce qui est encore plus facile, dans la civilisation future. Et ça, c'est la grande critique que je pourrais faire à Teilhard. Enfin, qui me paraît, enfin, je n'ai pas été son confesseur, avoir oublié ses propres problèmes de jésuites et les propres problèmes du christianisme pour déboucher dans une vision du point oméga de la restauration de l'apocalypse.
Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord avec vous.
On pourrait dire, si vous voulez, Teilhard, bon, cet homme génial, il m'a semblé avoir fait une erreur de base. Bon, il aurait pu trouver dans son christianisme, dans sa vie spirituelle, quelque chose, il n'aurait pas été obligé d'aller faire de l'archéologie, manier des pierres, aller sur le terrain, faire le tour du monde, etc. Et puis avoir cette vision qui nie finalement le mal, qui nie Satan, pour ne voir que l'apothéose de la conscience dans le point oméga, qui est le Christ cosmique, voyez-vous. Et alors là, c'est là que Jung et l'alchimie viennent compléter une vision comme celle de Teilhard, en rappelant qu'auprès de cet envol dans la lumière, et avant, il y a la plongée dans l'obscurité, que le diable est là, et que c'est la moitié de Dieu, vous voyez? Alors, on retrouve à ce moment-là les philosophies orientales, on est beaucoup plus près des philosophies orientales que de la philosophie chrétienne. Et on retrouve aussi ce que Jung a mis en valeur dans ce livre qui, comme beaucoup d'autres, n'est pas traduit, qui s'appelle Aion, le fait que le christianisme a vu l'homme lumineux figuré par le Christ, mais immédiatement, et on pourrait dire en même temps, s'est imposée la présence et la menace de l'homme obscur, de l'antéchrist, qui est en train de déboucher maintenant, on pourrait dire, dans la négation du Christ, dans la matière déifiée, et puis finalement, comme nous avons vu tout à l'heure, explosant et provoquant chez Oppenheimer ce cri qui est admirablement prophétique, nous avons fait l'œuvre du diable. C'est-à-dire l'antithèse de l'œuvre divine alchimique, de récapitulation des contraires dans une matière qui, pour nous, telle que nous vivons, est la matière humaine, le corps. Voyez.
Vous citiez Oppenheimer. Et si vous voulez, je voudrais en revenir à ce que nous disions tout à l'heure à propos de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une néognose chez les savants modernes. Et notamment, mentionner une œuvre qui m'a particulièrement frappé, celle de Werner Heisenberg. Je pense que ce grand microphysicien est incontestablement un de ceux qui ont contribué le plus à démasquer les insuffisances du scientisme, et il a exposé, n'est-ce pas, toutes les difficultés qu'il trouve lui-même à convaincre un certain nombre des meilleurs physiciens qu'il faut absolument renoncer à une description purement spatio-temporelle des processus atomiques. Alors, dans quelle mesure est-ce que nous avons affaire à l'amorce d'une néognose chez un grand microphysicien comme lui, universellement connu, et que je cite encore une fois précisément parce que c'est une autorité dans sa discipline? Eh bien, je crois que nous avons là l'amorce d'un retour à une philosophie de la nature, au sens traditionnel du terme, lorsqu'il écrit par exemple que ce qui lui apparaît dans ses travaux au soir de sa vie, c'est la valeur en quelque sorte des intuitions traditionnelles de l'arithmosophie, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, et l'idée fondamentale selon laquelle l'ordre de l'homme et l'ordre de la nature ont partie liée. Il écrit cette phrase tout à fait révélatrice. « La nature est faite de manière à pouvoir être comprise, ou plutôt notre intelligence est ainsi faite qu'elle peut comprendre la nature. Ce sont les mêmes forces régulatrices qui ont construit la nature dans toutes ses formes et qui sont à l'origine de la structure de notre âme, donc aussi de notre intelligence. La particule est, tout comme l'état stationnaire d'un atome, déterminée par sa propriété de symétrie. Les formes tendent à se reconstruire toujours à nouveau là où elles ont été détruites. Et cela tient bien entendu au fait que la symétrie est quelque chose de plus fondamental que la particule. Cela s'ajoute bien à l'esprit de la mécanique quantique telle qu'elle a toujours été conçue par Bohr. Cela s'ajoute bien également à la philosophie de Platon. » Fin de citation. Eh bien ça me semble tout à fait significatif de ce dont nous parlions tout à l'heure, n'est-ce pas? Et surtout ensuite quand il nous explique longuement que les particules élémentaires incarnent pour ainsi dire des symétries et peuvent être, comme il le dit, comparées au corps régulier du Timée de Platon. Et alors ce sont les images originelles, ce sont pour lui les idées fondamentales de la matière.
Le mot qui me frappe, là, c'est symétrie, n'est-ce pas? Oui. Symétrie dit dualité. Dualité dit division du un ou de l'un dans une dualité primordiale qui va ensuite revêtir diverses formes. Ça, c'est une remarque. Et l'autre remarque porte sur ce que vous disiez à propos de l'arithmosophie. Jung, à la fin de sa vie, à travers toutes ses recherches intérieures, toutes ses expériences intérieures, était parvenu à cette conclusion empirique que le nombre était l'archétype le plus fondamental, l'intermédiaire entre l'unité indiscernable, le fond de l'inconscient, comme il aurait dit, et puis la manifestation, les phénomènes extérieurs et intérieurs, et sa méditation portait sur le nombre qui, à ses yeux, apparaissait précisément comme le point de jonction entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'esprit et la matière, car qui dit matière dit étendue, donc dit nombre, n'est-ce pas? Et il projetait un livre sur la question, livre que l'âge ne lui a pas permis d'écrire, et dont il a légué le schéma ou les réflexions préliminaires à sa continuatrice Marie-Louise von Franz, qui en a fait un ouvrage, Zahl und Zeit, que nous envisageons de publier prochainement en traduction sous le titre de Nombre et Temps. Et Marie-Louise von Franz, dans ce livre, reprend précisément des expériences, des confessions de physiciens, comme celle de Heisenberg que vous venez de lire et que, je crois, elle cite, pour montrer que tous ces physiciens sont des êtres qui sont pris par le nombre, chez qui le nombre a éclos, a fait son apparition d'une façon mystérieuse un beau jour, donnant lieu à l'établissement de grilles qui ensuite leur ont permis de décrire la matière, mais à partir de ces éléments absolument irrationnels et en même temps extrêmement rationnels, puisque le nombre est nombre, enfin en latin, le nombre c'est ratio, n'est-ce pas, la raison, vous voyez, ce qui permet de compter. Vous voyez ? Alors nous retrouvons là une vision extrêmement unifiante, à la fois simple et mère de toute la complexité d'une science véritable.
Mais c'est à la fin, si je me rappelle bien, de ce même livre que Marie-Louise von Franz, poussant la théorie jusqu'au bout, explique que, en fin de compte, la matière, l'âme et l'esprit, elle tient les trois termes en même temps, ne sont chacun qu'une manifestation de la même unité, en quelque sorte préétablie et indivisible, et que nous, nous percevons effectivement avec nos moyens simplement humains de manière différenciée, et qui sont effectivement différenciées, mais qui en réalité sont profondément une.
Oui.
Alors, ce qui me console un petit peu à travers tout ce que nous avons dit aujourd'hui, et évidemment il faudrait continuer beaucoup plus loin, c'est qu'en fin de compte, nous avons l'impression que nous revenons vers une vision globalisante de l'univers, que nous revenons vers en même temps une vue réellement spirituelle de l'univers, dans laquelle, à la limite, on pourrait dire que l'homme retrouverait son unité et son harmonie avec le cosmos.
Alchimistes, cependant, affirment, avec beaucoup de raison, que leur surhumain ouvrage est en tout point calqué sur la création divine des six premiers jours et dénomment le temps requis à le parfaire la semaine des semaines, hebdomas hebdomadum, dont la genèse dépeint, pour le chercheur, les événements successifs offrant les indications précieuses de la plus positive analogie. Moïse, en un verset de son deuxième livre, résume fort succinctement la totalité de l'effort. « Car le Seigneur fit en six jours le ciel et la terre, et la mer, et toutes les choses qui sont en eux. Et il se reposa au septième jour. Pour cette raison, le Seigneur bénit le jour du sabbat et le sanctifia. » Quant à la grande semaine où le démiurge se reposa le septième jour, voici maintenant ce que nous dit, et qui n'est pas sans intérêt, l'adepte inconnu. La nature qui se plaît dans ses propres nombres est satisfaite du nombre mystérieux de sept, surtout dans les choses qui dépendent du globe lunaire, la lune nous faisant voir sensiblement un nombre infini d'altérations et de vicissitudes dans ce nombre septénaire. C'est par ce nombre magique que la nature, et tout ce qui en dépend, est secrètement gouverné. Mais ce mystère naturel est caché aux esprits grossiers qui ne peuvent rien voir que par les yeux du corps, qui se contente de cela et ne cherche rien davantage. Ce nombre septénaire est un des grands secrets des philosophes, et quiconque saura par lui comprendre l'ordre de l'univers saura un mystère qui, bien loin de devoir être révélé, doit au contraire être enseveli dans un profond silence.
La source intermittente. Antoine Fèvre, Étienne Perrault, Michel Cazenave. Texte lu par Odile Poisson et Philippe Moreau. Bibliographie, L'Alchimie, Eugène Cancelier, édition Pauvert, Le Tao Te Ching, Voyelles, Arthur Rimbaud. Réalisation, Anne-Marie Abou.
Source intermittente, une émission de Michel Cazenave, diffusée pour la première fois le 13 mai 1978 sur France Culture.